12h30, 14h. Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, bonjour Ombline.
Bonjour Raphaël.
Dans une minute votre grand journal et juste après on va faire bouger la France et aujourd'hui, écoutez bien, on va repeindre aux couleurs du Made in France avec des produits éco-responsables et innovants. C'est ça la France qui bouge, on vous attend 3921 et Twitter.
Il est midi et demi. Votre grand journal avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Des blessés ce matin dans le braquage d'un fourgon en région lyonnaise. Les malfaiteurs l'ont attaqué sur l'A43 au moment où il prenait la direction de l'aéroport. Le soda, nouvel ennemi pour notre foie. Un rapport de l'INSERM pointe du doigt ses dangers. Et pas seulement en cas de consommation excessive. Une canette par jour, c'est déjà trop. Les géants français de l'homéopathie se préparent au déremboursement. Ce sera terminé en 2021 chez Boiron. Les syndicats redoutent des conséquences désastreuses pour l'emploi. À la une aussi dans ce journal, François de Rugy et ses fastueux dîners privés, l'actuel ministre de l'écologie épinglé par Mediapart quand il était président de l'Assemblée nationale. Un safari qui coûte cher à deux gérants d'un Super U forcés de démissionner en cause des photos divulguées sur les réseaux sociaux. Gros plan aussi sur les forces de l'ordre, rapport alarmant sur leurs moyens. On passera également en revue les nouvelles mesures pour renforcer le recyclage et nous irons bien sûr sur la route du Tour, c'est la cinquième étape. La météo, Elena Morna, journée plus.
Oui, plus beau, plus chaud, une journée bien estivale, ensoleillée quasiment partout, allez, à peine quelques nuages en bord de Manche, d'autres sur les Pyrénées et les derniers orages qui s'évacuent par la Corse, les températures de 20 à 35 degrés entre la Manche et la Méditerranée.
Météo complète avec vous, Elena Morna, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Des blessés donc ce matin sur l'autoroute A43 près de Lyon. C'est un fourgon de transport de fonds qui a été attaqué au moment où il prenait, Pauline Jacquot, la bretelle de sortie en direction de l'aéroport.
Oui, à hauteur du péage, deux camionnettes blanches ont coincé le fourgon blindé, un fourgon de la Brinks. Selon nos informations, les malfaiteurs sont sortis de leur véhicule. Armés de fusils d'assaut, gilets pare-balles sur le dos, ils braquent alors les convoyeurs de fonds. Et selon Autoroute Info, ils mettent le feu aux trois véhicules et prennent la fuite. On ne sait pas encore s'ils ont fui à pied ou à bord d'un autre véhicule et on ignore pour le moment le montant du butin.
Et Pauline, on le disait, il y a plusieurs personnes blessées.
Oui, ce sont les trois convoyeurs de fonds blessés légèrement, selon nos informations, chahutés par des échanges de coups de poing, mais il n'y a pas eu de coup de feu. Les secours sont actuellement sur place. Cette portion d'autoroute est en ce moment fermée à la circulation, alors que les malfaiteurs sont toujours recherchés. C'est la police judiciaire de Lyon qui est saisie de l'enquête.
Merci Pauline Jacquot pour ces toutes première précision.
Il est 12h30 de la suite du journal de la mi-journée avec Raphaël Duchemin.
Et voilà qui va probablement vous inciter à regarder à deux fois ce que vous buvez. On savait déjà que le soda n'était pas bon pour notre santé, mais une étude de l'INSERM vient préciser les choses. Une canette par jour, c'est déjà trop. Mélanie Gomez, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. C'est notre foie qui trinque.
Oui, alors ces chercheurs de l'INSERM montrent donc dans une étude qui sera présentée demain au congrès des hépatologues qu'à partir de seulement 33 centilitres de soda par jour, que ce soit du coca, de l'orangina, du Sprite, c'est déjà en effet toxique pour notre foie. En fait, ce qu'il se passe dans le corps, c'est que ce sucre sous forme liquide, il se transforme ensuite en graisse. Et à la longue, canette après canette, cette graisse, elle va engorger en quelque sorte le foie. Aujourd'hui, on sait que 20% des adultes, soit 8 millions de Français, ont déjà ce que les médecins appellent un foie gras. Et parmi eux, certains souffrent sans le savoir d'une maladie qu'on appelle la NASH. En clair, une énorme inflammation du foie, précise le professeur Laurent Sarfati, hépatologue au CHU de Strasbourg.
Et c'est quand il y a cette inflammation qu'on parle de NASH. Et c'est cette NASH qui peut évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. Le message, c'est que même sans boire d'alcool, on peut avoir une cirrhose sans le savoir, puisque les patients sont asymptomatiques. Et cette cirrhose peut se compliquer et ça peut être une indication parfois même à la greffe. Notre message, je vous dis, c'est vraiment c'est de perdre du poids, suivre un régime et bien sûr stopper complètement la consommation de soda.
Enfin, ces médecins insistent, ce risque d'avoir un foie gras et malade, ça peut commencer dès l'enfance, donc chez les plus jeunes. Aussi, dès une canette par jour, le foie souffre. Résultat, pour les petits comme les grands, on oublie toutes les boissons sucrées, même les jus de fruits. La seule boisson pour garder un foie en bonne santé, c'est l'eau.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Les sodas sont donc dans le viseur et l'homéopathie aussi, puisque c'est confirmé, à partir de 2021, ce ne sera plus remboursé. On avait beau s'y attendre dans les laboratoires français qui en fabriquent, c'est un coup de massue. Chez Boiron par exemple, le leader, les syndicats des personnels ont un grand sentiment d'injustice, d'autant que ce ne sera pas sans conséquences sur l'emploi, comme le laissait entendre d'ailleurs ce matin sur Europe 1 Valérie Poinceau, leur directrice générale.
Nous sommes extrêmement choqués par cette annonce et nous sommes très en colère parce que nous souhaitons dénoncer dès à présent la méthode employée maintenant depuis un an pour massacrer littéralement l'homéopathie. On se pose vraiment la question à qui profite ce massacre organisé de l'homéopathie, puisque c'est incompréhensible pour les Français. On va aller voir Madame Buzyn. Tous ensemble.
Vous vouliez même en appeler au président de la République.
On va en appeler au président de la République. Monsieur Macron, dans l'histoire, on a vu qu'il a pu évoluer. Écoutez les Français sur le carburant. Je peux aussi vous donner l'exemple du glyphosate, hein, où le glyphosate est très toxique. Et on a un moratoire sur le glyphosate. Pourquoi on n'aurait pas le moratoire sur l'homéopathie ?
Question posée ce matin par Valérie Poinceau avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. L'arrêt progressif du remboursement des traitements homéopathiques va-t-il avoir une incidence sur notre comportement à nous, consommateurs ? Marion Jarde, vous avez poussé la porte d'une pharmacie ce matin en plein Paris. Comment réagit-on ?
Eh bien, Raphaël, le patron de la pharmacie dans laquelle je me suis rendue est inquiet. Il estime que le déremboursement de l'homéopathie va entraîner une hausse des prix et donc, pour lui, une chute des ventes.
Comme tout déremboursement, forcément, il y a des clients qui, derrière, ne vont pas forcément réacheter parce que les prix vont forcément flamber. Un tube d'arnica, aujourd'hui, coûte 2,35€. Déremboursé, le prix risque de passer dans les 4-5€ le tube.
Un discours pessimiste qu'on ne retrouve pas du côté des clients. Ils sont plutôt attachés à ce moyen de se soigner. Jocelyne, par exemple, ne compte pas changer ses habitudes. Elle ne se soigne qu'avec de l'homéopathie depuis son enfance.
Je continuerai avec l'homéopathie parce que je n'ai pas envie d'avoir tous les effets secondaires contre tous les autres médicaments. Ça, c'est évident. D'autant plus que si les gens n'utilisent pas de l'homéopathie, ils vont utiliser autre chose qui coûte plus cher. Donc, ça coûtera plus cher à la sécurité sociale.
Avis partagé par Claudine, elle achète d'ailleurs déjà de l'homéopathie qui n'est pas prise en charge, comme l'oscillococcinum en prévention de la grippe par exemple. Elle croit à ses bienfaits et elle les trouve plus efficaces que les autres médicaments.
Mes enfants, il y en avait un qui avait de l'eczéma, je l'ai soigné par homéopathie, je me soigne tout le temps par homéopathie, le moindre mal de gorge, je fais de l'homéopathie. Et on les a soignés que comme ça, bien sûr.
Voilà, tous les consommateurs d'homéopathie que j'ai pu rencontrer étaient assez remontés. Certains songent d'ailleurs à lancer une nouvelle pétition pour protester.
Merci Marion.
Europe 1, il est 12h36, la suite du journal. Raphaël Duchemin.
Un ministre accusé de mener grand train, François de Rugy, ministre d'État, ministre de l'écologie, mis en cause par Mediapart ce matin. Selon le journal en ligne, celui qui était alors président de l'Assemblée nationale entre 2017 et 2018 aurait organisé une dizaine de dîners fastueux dans sa résidence officielle, l'hôtel de la C en plein Paris, des dîners privés aux frais de l'État, Adrien Beck.
Oui, autour de la table, jusqu'à une trentaine d'invités, souvent des amis du couple de Rugy, assure Mediapart. Et sur la table, outre la vaisselle d'apparat, homard géant, grand cru, issu des caves de l'Assemblée nationale. Une photo montre par exemple Séverine de Rugy devant un mouton Rothschild de 2004, bouteille à plusieurs centaines d'euros. Alors il était urgent, tôt ce matin, de déminer dans un document de 3 pages transmis aux rédactions. L'entourage de François de Rugy assure que les menus étaient choisis par le service de restauration de l'Assemblée nationale et évoque à plusieurs reprises un travail de représentation. C'est ce qu'a répété le ministre ce matin chez nos confrères de France Inter.
J'assume totalement qu'un président de l'Assemblée nationale, comme un ministre, rencontre dans un cadre informel, le soir dans des dîners, en plus des déjeuners le midi, parfois même des petits déjeuners, des responsables d'entreprise, des responsables de la culture.
Et je me défendrai et je défendrai ma femme parce que je n'accepte pas qu'on nous attaque, nous n'avons rien à nous reprocher, ni elle, ni moi.
Ces dîners, une nécessité pour rester connecté à la vraie vie, justifie de son côté Séverine de Rugy. Et des révélations qui contrastent en tout cas avec la volonté affichée par son mari de mieux gérer les dépenses de l'Assemblée lorsqu'il en était le président. Aujourd'hui ministre de l'écologie, ces révélations risquent de polluer les annonces vertes que le gouvernement égrène toute cette semaine.
Merci Adrien. Un appel du parquet ne serait pas forcément logique. Phrase assez surprenante prononcée par Nicole Belloubet ce matin après la relaxe générale du procès Tapie. La ministre de la Justice s'interroge sur l'opportunité de refaire un nouveau procès alors que l'urgence est ailleurs, dit-elle. Chloé Triomphe, l'urgence c'est en fait pour elle de récupérer l'argent que Bernard Tapie a été condamné à rendre à l'État par un jugement au civil en 2015. Justement, de l'argent, il en a récupéré une bonne partie grâce à la décision d'hier, près de 170 millions d'euros.
Oui, et cette somme est répartie entre des comptes, des assurances-vie, des parts dans ces sociétés, des contrats et dans la villa de Saint-Tropez. Elles avaient toutes été confisquées à titre conservatoire par la justice en attendant le procès. Mais c'est en effet l'une des conséquences de la relaxe prononcée hier. Toutes ces saisies pénales sont levées, l'argent et les biens sont rendus à Bernard Tapie directement sans être affectés au remboursement de la dette auprès du CDR, l'organisme d'État qui gère le passif de l'homme d'affaires avec le Crédit Lyonnais. Autrement dit, cet argent n'ira pas directement au remboursement des 404 millions d'euros obtenus grâce à l'arbitrage. Bernard Tapie a pourtant été condamné, vous l'avez dit, à rembourser en 2015 par une décision de justice. Mais pour autant, la situation financière de Bernard Tapie reste en suspens car il est toujours sous le coup de ce qu'on appelle une procédure de sauvegarde. C'est pour cela qu'il n'avait pas encore commencé à rembourser. Cet argent récupéré hier va lui permettre de proposer de nouveaux plans de remise à flot devant le tribunal. Ce sera le 30 octobre prochain pour éviter une mise en liquidation judiciaire qui signifierait la fin du délai pour rendre ces 400 millions d'euros.
Merci Chloé Triomphe. Une information Europe 1. Un médecin a été agressé hier soir à son cabinet dans le 7e arrondissement de Paris. Deux hommes cagoulés lui ont dérobé 12 000 euros en liquide et l'ont ligoté avant de prendre la fuite. Une enquête est ouverte pour vol sous la menace d'une arme.
Il est midi 40.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. De nouvelles mesures pour nous aider à adopter les bons gestes pour recycler et des photos d'un safari qui coûte cher à un couple de gérants d'un Super U. A tout de suite.
Il est 12h42 sur Europe 1, la suite du journal de la mi-journée avec Raphaël Duchemin.
Ils ont été rattrapés par les réseaux sociaux. Un couple de gérants d'un Super U a dû démissionner hier soir en cause. Des photos prises lors d'un safari. Les clichés remontent à 2015, mais on les voit qui posent fusil à la main devant des cadavres d'animaux. L'affaire a provoqué un tollé sur Twitter à tel point que la coopérative a dû réagir et met en place, Jean-Luc Boujon, une nouvelle direction.
Oui, c'est pour ça que le Super U de l'Arbrelle à 30 km de Lyon est fermé depuis ce matin. Rideau de fer tiré au niveau des trois entrées du magasin et des clients venus faire leurs courses qui ne parlent que de ça.
Ils sont allés s'amuser à faire un safari je ne sais pas trop où. Ils ont tué je crois qu'il y a un tigre, il y a un crocodile, il y a un hippopotame je ne sais pas trop quoi. Enfin, on les voit en photo glorieusement devant ça, etc. C'est un vrai scandale, quoi.
C'est une honte, quoi. C'est, je veux dire, s'afficher pour montrer cette cruauté, donc c'est scandaleux, quoi. C'est vraiment scandaleux, quoi. Vraiment, je trouve ça, mais ignoble.
Malgré tout, d'autres clients regrettent la démission forcée du couple de gérants. Les époux Albou faisaient partie des notables locaux, mais ils étaient plutôt appréciés ici, considérés comme des gens travailleurs qu'on voyait souvent mettre la main à la pâte dans les rayons du magasin. Marc déplore notamment la puissance destructrice des réseaux sociaux.
Je vois pas le rapport entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est pas parce que j'ai une passion qui plaît pas à tout le monde que ça doit interagir sur leur vie professionnelle. Je vois pas qui ça regarde, en fait. C'est ce que montrent les réseaux sociaux aujourd'hui. On n'a plus aucune liberté, plus aucun secret dans la vie. Tout va à une vitesse, que ça soit vrai ou pas vrai, ça va trop loin, quoi. Aujourd'hui, vraiment, ça va trop loin.
Voilà, alors la direction nationale de Système U s'est donc désolidarisée hier des gérants, estimant que leur conduite, même privée, était en contradiction avec les valeurs du groupe. Le magasin rouvrira demain, mais avec de nouveaux responsables.
Merci Jean-Luc Boujon.
Il est 12h44, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Déplorable, le mot est lâché. Voilà les conclusions du rapport parlementaire rendu ce matin sur les conditions de travail des forces de l'ordre. Ça n'est pas la première fois que le constat est dressé. Mais là, à la manœuvre, il y a l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, aujourd'hui député La République En Marche. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour.
Surtout, il y a des remontées de terrain qui viennent à la fois des inspections qui ont été menées, mais aussi, et ça c'est plus nouveau, du questionnaire rempli par les policiers et les gendarmes.
Un questionnaire qui a reçu près de 14 000 réponses et dont remonte notamment la grande vétusté du parc immobilier. 6 gendarmes sur 10 par exemple trouvent que leur logement n'est pas satisfaisant. Lors de leur visite, les députés comme Christophe Nagelen ont également été saisis par cet état très dégradé des locaux.
Quand vous allez au commissariat de Fontainebleau, que vous voyez le mur du parking qui est par terre, que vous voyez des infiltrations dans les murs, que vous voyez des policiers qui travaillent sous les combles sans aération, que vous allez à la caserne de Flandre, à Dijon, que les gendarmes vous expliquent que leur logement est amianté, que quand il pleut à l'extérieur, il pleut à l'intérieur. On ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce niveau.
Même constat pour les véhicules de police dont l'âge moyen atteint maintenant 7 ans et demi. Jusqu'à 45 ans pour les véhicules blindés de la gendarmerie, dont certains redoutaient qu'ils tombent en rade sur les Champs-Élysées face aux gilets jaunes. Bref, en plus d'un certain nombre de mesures pour alléger les tâches quotidiennes des policiers, le rapport préconise un investissement massif dans les équipements et dans les effectifs, le tout dans le cadre d'une loi de programmation sur plusieurs années pour avoir un cap enfin stable.
Merci Salomé Legrand. Le gouvernement lance la chasse au gaspillage. C'est aujourd'hui que le projet de loi sur l'économie circulaire est présenté en Conseil des ministres et l'ambition est de nous faire changer nos comportements dans tous les gestes du quotidien, le tri des poubelles. Ça, on connaît, mais il y a aussi dans ce texte, lors d'Autriche, des réflexes à acquérir qu'on a moins, comme par exemple la réparation.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que faire réparer sa machine à laver ou son micro-ondes coûte cher et beaucoup de consommateurs préfèrent souvent racheter un appareil neuf. Alors pour que la réparation coûte à l'avenir moins cher, le gouvernement veut obliger les réparateurs, comme le font aujourd'hui les garagistes, à utiliser des pièces d'occasion et ainsi faire baisser le prix de la réparation. Dès 2021 aussi, les industriels auront l'obligation d'afficher sur les appareils électriques et électroniques une étiquette qui indique si le produit est plus ou moins réparable et en combien de temps on peut trouver les pièces détachées. Alors l'autre point important de ce projet de loi, c'est le retour de la consigne pour améliorer la collecte des emballages. Aujourd'hui, on ne recycle que la moitié des bouteilles en plastique, alors que 90% des bouteilles sont récupérées dans certains autres pays européens. Aucune date n'est pour l'instant fixée, mais la consigne ne devrait pas être mise en place avant 3 ans et cela pourrait concerner le plastique mais aussi le verre ou encore les canettes.
Merci Laure d'Autriche, spécialiste environnement d'Europe 1. Et puis notez que c'est aujourd'hui qu'on saura qui est désigné candidat pour les municipales à Paris et au sein de La République En Marche. La commission nationale d'investiture d'LREM doit statuer entre Granson, Benjamin Griveaux et Cédric Villani.
Il est midi 47.
Europe 1. Restez avec nous dans un instant. Le Tour de France, 5e étape et de l'action aussi au cinéma bien sûr. A tout de suite.
Merci d'écouter Europe 1 à midi 49, la suite du journal Raphaël Duchemin.
Avec la 5e étape de la grande boucle aujourd'hui.
Europe 1.
Le Tour de France avec De Koninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dekoninck.fr.
Direction l'Alsace, le peloton va parcourir les Vosges de Saint-Dié à Colmar, 175 km et demi. Et on peut dire que les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Bonjour Thomas Vauclair.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le consultant d'Europe 1 sur ce Tour de France. Ça commence à grimper un peu plus hein, aujourd'hui.
Oui, alors on a déjà eu l'étape d'Épernay où Julien Alaphilippe a profité des quelques ascensions courtes qu'il y avait dans le final. Aujourd'hui, les ascensions sont plus longues et c'est vrai qu'on peut qualifier déjà de moyenne montagne cette étape. Ouais.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez identifiées ?
Alors c'est pas des cols renommés comme on peut avoir dans les Alpes ou les Pyrénées, mais c'est vrai que dans les 40 derniers kilomètres, il y a deux ascensions et il y a notamment une descente très rapide qui emmène à 10 km de l'arrivée. Donc c'est plus les deux difficultés concentrées dans les 35 derniers kilomètres qui peuvent peut-être créer des différences. La spécificité de cette étape, c'est qu'elle est vraiment difficile. On ne sait pas quel scénario il peut y avoir. Autant hier, on savait très bien qu'il allait y avoir une échappée qui allait se faire rattraper et qu'on aurait droit à un sprint massif. Autant aujourd'hui, honnêtement, est-ce que ça sera une échappée au long cours ? Est-ce que ça sera des punchers qui vont sortir dans le final ? Est-ce que ça sera plutôt des favoris qui tenteront déjà quelque chose ? Honnêtement, on ne sait pas trop.
Oui, pas mal de suspense donc. D'après vous, qui va essayer de se montrer ?
Alors moi, je suis convaincu que déjà, c'est un fait. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné depuis le début du tour. On a fait 4 étapes, 2 victoires pour la Jumbo-Visma, 2 victoires pour la Deceuninck Quick-Step et 21 étapes, ça passe vite. Donc il y a des équipes qui ont des coureurs, qui ont des talents de grimpeurs, peut-être pas dignes des plus grands de ce Tour de France, mais qui passent bien les bosses et qui ont également une très bonne pointe de vitesse. Donc je pense à des équipes comme la Sunweb de Michael Matthews qui a terminé deuxième derrière Julien Alaphilippe l'autre jour à Épernay. Je pense que ce type d'équipe, cette catégorie d'équipe et ce type de coureurs ont des chances de s'imposer dans un sprint en comité restreint, une cinquantaine de coureurs, s'il n'y a pas une échappée qui va au bout.
Et ce soir, Alaphilippe toujours en jaune, c'est l'objectif ?
Oui, ça devrait passer sans encombre aujourd'hui. Très franchement, je pense que c'est pas aussi simple que hier, parce que hier c'était vraiment une formalité pour lui de conserver le maillot, mais aujourd'hui, sauf chute, il sera en jaune ce soir.
Merci Thomas Voeckler. On vous retrouve évidemment sur les routes du Tour, des tours et des routes extrêmement bruyantes entre la caravane, ses haut-parleurs, le public sur les bas-côtés. Les coureurs sont soumis du matin au soir à une grosse intensité sonore, sans compter les managers qui leur parlent à l'oreille. Pas simple, et vous allez le voir avec ce reportage de Marguerite Lefebvre, de tenir pendant 3 semaines.
Le matin, lorsqu'ils arrivent sur la ligne de départ, c'est comme s'ils enclenchaient un bouton impossible à désactiver avant de regagner leur chambre d'hôtel en fin de journée. Il y a le podium de signature avant l'étape, le monde sur le bord des routes, les hélicoptères au-dessus de leur tête et puis enfin les hurlements des supporters à l'arrivée. Pendant 5, 6, voire 7 heures parfois, les tympans des coureurs sont mis à rude épreuve. Durant 3 semaines, ils guettent les moindres moments de calme pour tenter de récupérer. Et dans l'équipe Arkéa du champion de France, Warren Barguil, c'est Jean-Jacques Menuet, le médecin du sommeil, qui est là pour les aider le soir.
Moi, je veille scrupuleusement à ce que, dès le dîner terminé, ils rentrent dans leur bulle, ils rentrent dans leur espace personnel, diminuer le bruit dans la chambre. En moyenne, à 23 heures, franchement, moi, je fais le tour discrètement dans le couloir. Et je sais qu'ils sont déjà endormis. Beaucoup dorment avec des boules-caisses, adaptées à chaque conduit auditif pour chaque coureur. Le tour, c'est 3 semaines en étant dans sa bulle. Et nous, le rôle du staff, c'est vraiment de les préserver de la pression.
Encadrer et protéger les coureurs, notamment ceux qui découvrent le Tour de France, cette compétition qui rassemble chaque année près de 12 millions de spectateurs sur le bord des routes. Saint-Dié des Vosges, Marguerite Lefebvre, Europe 1.
Allez, on part au cinéma. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
On parle d'abord de la grosse sortie du jour, si vous le voulez bien. C'est Anna, c'est le nouveau Luc Besson.
Oui, étrié notamment par la presse américaine, où le film est sorti depuis quelques jours et où il ne marche pas du tout. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup moins sévère que cette presse US. Certes, on va le dire, c'est pas le meilleur Besson, mais c'est un bon film d'action et d'espionnage comme on aime bien aller voir l'été, avec ce principe des poupées russes, c'est-à-dire qu'Anna, c'est une espionne russe, donc va trahir à peu près tous ceux qu'elle croise et pour qui elle va travailler.
C'est un petit côté Nikita, quoi.
Exactement, Nikita, Léon, on enchaîne les fusillades, les courses-poursuites, les scènes de séduction. Et puis surtout, c'est un film qui est bourré de rebondissements. Franchement, je vous défie d'imaginer comment ça va pouvoir se terminer. Donc voilà, si vous aimez ce genre de cinéma, allez-y, vous y prendrez du plaisir. Faut pas en attendre beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal.
Et puis vous avez un polar asiatique aussi à nous conseiller aujourd'hui. Ça s'appelle Face à la nuit.
Oui, et là on prend vraiment une leçon de cinéma. Le film a d'ailleurs reçu le Grand Prix au dernier festival de Beaune, puisqu'en fait on suit l'histoire d'un homme à 3 époques différentes de sa vie. C'est-à-dire qu'on le découvre d'abord au début du film en 2049. Là ça flirte un peu avec la science-fiction. C'est Zhang Dongling, c'est le nom de ce héros. Il est gardien de nuit, dépressif, malheureux, renfermé sur lui-même. Bon, puis on le retrouve à la fin des années 2010. Alors là, à ce moment-là, il est policier, un peu véreux. Enfin, on le retrouve une dernière fois, là, cette fois, alors qu'il est un jeune homme naïf au début des années 2000. Et donc, évidemment, on est perdu. Vous savez, on revient, là, pour le coup, c'est pas croissant, c'est décroissant. On revient dans le passé. Et donc, évidemment, au fur et à mesure, on va comprendre comment son destin, comment le destin d'un homme peut basculer au gré des épreuves de la vie. Le réalisateur Widingo, il a mis 8 ans à faire ce film, c'est vous dire l'ambition. Vous savez, chaque année, chaque été, on découvre un bon polar. Il y a 2 ans, c'était Le Caire Confidentiel. L'année dernière, c'était The Guilty. Je vous les conseille à chaque fois. Et bien, cette année, pour moi, le petit polar de l'été, c'est donc ce Face à la nuit. Je mets 2 étoiles sur 5 à Anna et 4 étoiles à ce Face à la nuit, allez-y.
4 étoiles tout de même.
Pas mal.
Ouais, pas mal, ça donne envie. Merci Mathieu Charrier. Et puis sinon, eh bien, vous avez la possibilité, si vous n'allez pas au cinéma, de peut-être bouquiner cet été. Vous savez qu'on vous offre les choix de lecture de la librairie Mola à Bordeaux et vous allez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Car aujourd'hui, avec Stéphane Place, on fait un stop au rayon BD. Les fans de Bulle vont redécouvrir Spirou comme ils ne l'ont jamais vu.
Mais pourquoi donc Spirou porte-t-il cette tenue de groom ? D'où vient l'amitié avec Fantasio ? Bref, quelle fut la vie de Spirou, cet aventurier qui a traversé nos enfances ? Émile Bravo, petit, se posait déjà des tas de questions sur le personnage créé par Franquin. Alors quand les éditions Dupuis lui proposent il y a 10 ans d'imaginer des réponses, ce talentueux auteur de bande dessinée s'empare du sujet et livre un flashback formidable. Spirou, le journal d'un ingénu qui se déroule en 1939 au Moustique Hôtel. Cet été, profitez des vacances pour vous précipiter sur la suite qui se passe à Bruxelles en 1940. Spirou, l'espoir malgré tout, album que vous recommande chaudement Fleur Catio, libraire chez Mola.
Émile Bravo reprend le personnage de Spirou et le replace dans son contexte d'origine. Il va s'intéresser à tous les questionnements en fait, qu'il avait déjà quand il était petit, c'est-à-dire d'où il vient. Et il va nous donner des réponses un petit peu, peut-être c'est un passé fantasmé du personnage. Il nous replace aussi le personnage dans son contexte d'origine et donc on voit l'imminence de la Seconde Guerre mondiale, le danger en Belgique, physique. Donc là, il va mêler une aventure, hein, à la Spirou, classique, avec les grosses gaffes de Fantasio, mais aussi des scènes qui sont historiques. Spirou, il gagne en maturité au fur et à mesure dans cette histoire. Un récit pour jeunes et adultes, mais très humaniste et intelligent, sur l'enfance, le passage à l'âge adulte et la guerre.
Le début de la guerre, l'invasion de la Belgique, Spirou pris dans les tourments de l'histoire, le bruit des bottes, les nazis, l'heure des questions et des choix, dans un contexte sombre que l'auteur Émile Bravo n'a pas choisi par hasard.
La Seconde Guerre mondiale, je m'y intéresse depuis très très longtemps, parce que j'ai grandi avec un père qui a vécu cette période, c'est un réfugié de la guerre d'Espagne, qui s'est battu pour la République et ensuite a vécu toute l'occupation en France. Et après je me suis documenté, parce que l'histoire se passe en Belgique bien sûr, donc l'occupation en Belgique n'est pas la même qu'en France. Donc, je me suis beaucoup documenté et je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il faut raconter aussi, pour que les jeunes d'aujourd'hui comprennent ce que ça veut dire de vivre dans cette époque et de vivre sous un régime totalitaire très dur comme a été le nazisme. Bon, à travers un personnage aussi populaire que Spirou, si on peut faire passer ça, c'est quand même assez fantastique.
Et bonne nouvelle, la sortie de la deuxième partie, un peu plus loin vers l'horreur, est déjà prévue le mois prochain. La troisième et quatrième partie seront publiées en 2020.
On a hâte. Merci Stéphane Place, on vous retrouve demain pour une nouvelle découverte.
Europe 1.
Restez avec nous, on va repeindre aujourd'hui aux couleurs du Made in France. À tout de suite.